aujourd'hui me tient vraiment à cœur. Je vais partager avec vous des détails privés et intimes sur ma vie qui aideront nos chers spectateurs et leur apporteront vraiment la guérison.
Joyce, tu as été très transparente et je pense que c'est le fondement sur lequel est bâti ton ministère, l'intégrité et la transparence, qui montre qui tu es et ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais ça ne peut pas avoir été toujours simple de partager les choses que tu as partagées. Pourquoi donc as-tu senti que c'était très important de déterrer ces choses profondes et douloureuses et de les partager avec les autres?
Eh bien, tout d'abord, Ginger, je crois de tout mon cœur que Dieu m'a donné le don de la franchise. J'ai toujours été une personne très franche et sincère, donc je crois que c'est en partie ma personnalité, mais je crois aussi que c'est en grande partie le don que Dieu m'a donné. Et je crois vraiment qu'il me l'a donné pour aider les autres, car les autres ont besoin d'avoir de l'espérance. Les gens ont vraiment besoin de savoir que quelqu'un a surmonté les luttes et tous les problèmes que j'ai rencontrés, ce qui dans mon cas était l'abus sexuel, l'abus verbal et même physique. Mais il y a toutes sortes de problèmes, il y a toutes sortes de trucs qui arrivent aux autres et qui les font souffrir. Une des choses vraiment importantes, c'est que Dieu vous aime vraiment. Comprenez une chose, si vous souffrez, Dieu vous aime et il veut vous consoler. Et il veut vous guérir, et il veut vous rétablir. Et donc, nous ne devons pas comparer nos bénédictions avec celles des autres, et nos épreuves et nos tragédies avec celles des autres non plus. Et je crois vraiment que Dieu veut aider et guérir tout le monde, et il veut les rétablir, et leur donner également la vie que Jésus est mort pour leur donner. Et donc, je crois qu'il m'a donné la grâce de partager franchement et... Tu sais, il y a très peu de choses qu'il m'est tellement difficile de partager. Il y a des choses dans ce témoignage qui étaient un peu dures, car elles sont en fait choquantes et crues. Elles sont trop violentes. Tu sais que le fait même de les prononcer dans certains cas était difficile. Non, mais le fait de dire « mon père a abusé de moi sexuellement » n'a pas l'air trop... Non, mais ça a l'air mauvais, mais c'est loin d'être aussi choquant que de dire « mon père m'a violé ».
Et le fait de le dire et d'utiliser le mot « violer » est une chose vraiment difficile à laquelle tu es parvenu il y a peu de temps, n'est-ce pas?
Eh bien, en fait, tu sais, je n'avais jamais fait ça et c'était la première fois. Cette fois-ci, quand j'ai partagé mon témoignage, c'était la première fois où j'ai vraiment pensé en ces termes et j'ai pensé « il ne m'a pas vraiment forcé physiquement, mais par les mensonges et la manipulation et la peur et les menaces. » Tu sais, j'ai été quand même forcée et donc... Le viol, par définition, c'est quelqu'un qui vous possède sexuellement contre votre volonté. Eh bien, ce n'était sûrement pas quelque chose que je voulais qu'il fasse, et donc, mon père m'a en fait violée maintes et maintes fois. Je pense, et selon mes calculs, que c'était au moins 200 fois. Au moins. Et donc, quand je pense à ce que Dieu peut vraiment faire dans nos vies, et quand je vois où j'étais il y a des années et où Dieu m'a emmenée aujourd'hui, non, mais je suis prête à le partager avec tout le monde si ça leur donne de l'espérance pour dire, tu sais quoi, si Dieu a pu t'aider à t'en tirer, je crois qu'il pourra m'aider à résoudre mon problème également. Mon père m'a fait subir des abus sexuels, psychologiques, émotionnels et verbaux, d'aussi loin que je m'en souvienne, jusqu'à mon départ de la maison à l'âge de 18 ans. L'abus veut dire faire mauvais usage, utiliser improprement, épuiser ou gaspiller, utiliser d'une façon qui cause le mal ou les dégâts, traiter cruellement. Peut-être que les gens qui nous écoutent ou qui sont ici ont été victimes d'abus sexuels, émotionnels, psychiques ou même verbaux, mais tous les types d'abus sont préjudiciables. Chaque fois qu'on fait mauvais usage de nous ou qu'on se sert de nous pour un but autre que celui auquel Dieu nous a destinés, c'est préjudiciable. Mon père a fait beaucoup de choses vicieuses. Et croyez-moi aujourd'hui quand je vous dis que je ne vais parler que de quelques-unes. Il y en a certaines qui seraient de loin trop choquantes et crues à évoquer devant une foule comme celle-ci. Il m'obligeait à le regarder par le trou de la serrure, faisant l'amour à ma mère, et j'étais censée lui dire quel effet ça me faisait. Si j'entrais dans une pièce où il était et où il n'y avait personne d'autre, il se touchait ou montrait ses parties génitales, comme si c'était censé m'exciter. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il touchait mes parties intimes, et j'aborais de voir entrer dans une pièce où il était. Et je me souviens que quand j'étais à la maison, mon plus grand but était de rester hors de sa portée. Quand il descendait au sous-sol ou au garage pour faire quelque chose, il me disait d'attendre 5 ou 10 minutes puis de le rejoindre, de faire semblant de le chercher. Et il m'agressait sexuellement, il me touchait et m'obligeait à le toucher. Je craignais que ma mère n'entre dans la pièce pour l'attraper sur le fait et me blâmer. Quand il sortait en voiture, il me disait de lui demander de me prendre avec lui devant ma mère, et il faisait semblant de refuser, et j'étais censée continuer à le supplier de me prendre avec lui jusqu'à ce qu'il cède. Il montait toute cette histoire pour donner l'impression que ça venait de moi. Moi, évidemment, je ne voulais pas l'accompagner, car je savais ce qui arriverait si je l'accompagnais. Mais je devais faire ce qu'il me disait. Ma mère allait à l'épicerie tous les vendredis matins et je voulais désespérément l'accompagner, mais il m'obligeait à lui demander de me laisser à la maison ou de trouver une excuse pour ne pas l'accompagner. Et ensuite, pendant son absence, il me violait. Quand nous allions nager, je devais lui demander de m'apprendre à nager pour qu'il puisse me prendre à l'eau et de mettre ses mains sur moi. Je ne me sentais nulle part en sécurité quand je grandissais. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer les dégâts que ça cause à un enfant, car les enfants devraient se sentir toujours en sécurité. Et je ne me sentais jamais en sécurité, et je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu ces mêmes expériences. Pour certaines d'entre vous, on dirait que je raconte votre vie aujourd'hui. Ils me demandaient d'inviter des filles de l'école pour qu'ils essayent de leur faire des choses. J'arrivais à trouver des excuses pour toutes les filles de l'école, mais il a abusé à plusieurs reprises de la fille d'à côté. Elle et moi étions amies et mon père m'a obligé à la prendre à un endroit où il pouvait être seul avec elle. Puis il m'a demandé d'attendre dans un autre coin pendant qu'il lui faisait des choses et j'étais très, très humiliée et très embarrassée. J'avais honte de moi, j'avais honte de mes parents, j'avais honte de ce qu'ils faisaient. Et quand je suis arrivée à l'âge adulte, j'ai compris le problème de la honte et d'être honteux de votre personne et comment ça empoisonne toutes vos pensées et tous vos actes. Et je suis si reconnaissante que le mot de Dieu dise, au lieu de votre honte, vous aurez une récompense double. Je vous donnerai une portion double. Si vous avez été élevé comme il faut, allez embrasser vos parents 3 fois par jour. Même si vous avez été faiblement élevé comme il faut, même un peu élevé comme il faut. Amen. Les abus sexuels sont si humiliants que personne n'en parle. Personne ne sait en parler. Mon père abusait de mon amie et elle et moi revenions ensemble et nous n'en parlions même pas. Et quand j'y repense maintenant, cela me laisse perplexe et je pense, c'est quelque chose d'unique pour moi. C'est une chose tellement affreuse que personne ne sait en parler. À l'école, je faisais semblant d'avoir une vie normale, mais je me sentais seule tout le temps et je me sentais différente tout le temps. Je n'ai jamais senti que je m'intégrais. J'étais incapable de me faire des amis. On ne me permettait jamais de participer aux activités extrascolaires. Je n'assistais jamais au moindre match, à la moindre activité sportive. Je ne pouvais participer à rien. Je n'avais que quelques minutes pour rentrer de l'école à la maison parce que mon père soupçonnait toujours que j'étais en train de faire quelque chose avec un garçon. C'est une culpabilité remarquable qui engendre les soupçons. Je n'avais pas d'amis et évidemment, on ne me permettait jamais de sortir avec les garçons. Mon père refusait de m'acheter une tenue pour la remise des diplômes ou des photos de graduation. Il pensait que c'était stupide et de l'argent gaspillé. Je devais donc expliquer à mes camarades de classe pourquoi je ne faisais jamais les choses qu'ils faisaient, pourquoi je n'assistais à rien et je n'allais jamais nulle part, pourquoi je ne pouvais pas faire ceci et faire cela. Cela signifiait plus de faux semblants et d'histoires inventées. Et c'était affreux, c'était absolument affreux. Je me rappelle le jour où j'étais vraiment jeune et on avait la Halloween à l'école. Et ma mère, par ignorance, elle n'avait pas assez d'argent de toute façon, m'a acheté un masque laid de loup en caoutchouc. Et quand toutes les autres petites filles sont arrivées, elles étaient vêtues de costumes de princesse. Et elles étaient magnifiques comme des petites fées avec toute cette mousseline. Et elles étaient si belles. Et moi, j'avais mon masque de loup. Je me rappelle que je suis allée me cacher dans un coin de la cour car j'avais horreur de mon déguisement. C'est remarquable, les choses dont on se souvient. Je me souviens très clairement que j'étais dans le coin de la cour portant ce vieux masque de loup en caoutchouc. C'est l'effet que ça me faisait, comme si toutes les autres étaient des princesses et moi j'étais le loup. J'avais un secret terrible et scandaleux qui me dévorait. Tu sais, Ginger, je parlais souvent de la peur dans mes sermons et je pense que c'était l'une des choses les plus préjudiciables. Et je ne me souviens littéralement pas d'un instant dans mon enfance où je n'avais pas peur.
Aide-nous à comprendre comment c'était, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont piégées dans la même situation maintenant. Et quel est l'exemple que tu peux nous donner en tant que jeune fille piégée dans ce
style de vie? Je ne me sentais jamais en sécurité. Je crois que, tu sais, les femmes ont surtout besoin de se sentir en sécurité. Elles ont besoin d'être entourées de soins. Je ne me sentais jamais en sécurité. Mon père travaillait la nuit et donc il allait au travail vers 3 heures de l'après-midi et il rentrait vers minuit. Et si j'étais réveillée et que j'entendais sa clé dans la serrure, j'éprouvais cette peur car je ne savais jamais ce qu'il allait faire. Tous les samedis soirs, il sortait de la maison et il s'enivrait vraiment. C'était son grand divertissement pour le week-end. Tu sais, il finissait sa semaine de travail les vendredis. Et tous les samedis après-midi, en début d'après-midi, il sortait et il commençait à boire et il rentrait entre minuit et 4 heures ou 5 heures du matin. Même pendant les soi-disant bons jours, tu sais, les bons jours où il n'y avait pas d'abus sexuels ou si tu veux, les jours où, tu sais, il n'avait pas de vrais problèmes avec ma mère, l'atmosphère de notre maison était surchargée continuellement de peur parce qu'on ne savait jamais. On n'avait pas de stabilité.
Il pouvait se retourner?
Oui, on n'avait pas de stabilité, donc on ne savait jamais ce qui pouvait le provoquer. On pouvait faire une chose à un moment donné et il n'y voyait pas d'inconvénient. Mais selon son humeur, ça pouvait le rendre fou à un autre moment. Et donc essentiellement, je vivais dans une atmosphère tellement contrôlée. Non mais, il était très contrôleur et je dis toujours, tu sais, on regardait ce qu'il voulait à la télé, on se levait quand il se levait, on se couchait quand il se couchait. Il décidait de ce qu'on devait manger et on devait le manger. Et tu sais, je pense qu'une des choses qui était si préjudiciable pour moi dans l'abus, c'est qu'il me demandait, non mais ça a l'air très grossier, mais quand j'avais peut-être 8 ou 9 ans, il me donnait des revues pornographiques pour les regarder. Puis il me demandait de lui dire quel effet ça me faisait. Eh bien, si je ne disais pas ce qu'il voulait entendre, il se mettait en colère. Et comme il était un homme colérique, maintenant tu dois comprendre, je suis une personne forte et colérique. Et les colériques ne supportent pas qu'on les bouscule pour commencer. Et pour moi, devoir faire semblant que j'ai aimé quelque chose que je méprisais et que je haïssais de tout mon être, je pense probablement qu'une des choses les plus préjudiciables pour moi était d'être forcée à vivre cette vie de fausseté. Et peut-être, tu sais, tu m'as déjà demandé pourquoi j'étais si franche, je n'y avais jamais pensé auparavant, mais peut-être que c'est ça. Peut-être que j'ai vu tant de faussetés et j'ai dû avoir affaire à ces faussetés et à ces faux-semblants si longtemps. Peut-être qu'une partie du don de liberté que Dieu m'a donné est que je n'ai plus à faire semblant. Je peux juste être franche et honnête et essayer de dire la vérité aux gens, parce que vraiment, seule la vérité affranchira les
gens. C'est vrai.
Mon père me disait que ce qu'il faisait, il le faisait parce que j'étais très chère et qu'il m'aimait. Donc, cet amour était une chose très perverse. Quand j'avais environ 9 ou 10 ans, je me souviens que mon père me prenait avec lui chez une parente et il me disait qu'il allait coucher avec elle. Et il me disait qu'elle adorait ça. que c'était beau. Tous ces trucs étaient pour m'encourager et m'assurer qu'il n'y avait pas de mal à faire ça. Ensuite, ils me racontaient en détail ce qu'ils ont fait. Je devais garder des tas de secrets. Ils disaient que ce qu'ils faisaient était beau et que ce devrait être notre secret. Et si je l'avais raconté à quiconque, personne n'aurait compris. Ils ne m'auraient pas cru et j'aurais causé des problèmes dans la famille. C'est remarquable que je m'en suis rendu compte. Ce matin, mon fardeau était de ne pas causer de problèmes dans la famille à cause de ma peine. Et une des choses essentielles auxquelles j'ai dû avoir affaire dans ma vie et auxquelles je dois encore faire face à ce jour, c'est un faux sens de responsabilité qui me fait prendre la responsabilité de choses dont je ne suis pas du tout responsable. Laissez-moi vous dire une chose, je m'occupais de mes problèmes et des vôtres aussi, si je savais que vous en aviez. Je prenais la responsabilité de trucs qui étaient vraiment ridicules. Cependant, Dieu a beaucoup travaillé en moi sur ce plan, et je peux dire maintenant, Joyce, ce n'est pas ta responsabilité. Tu n'as pas à t'occuper des problèmes des autres. Qui sait ce que je veux dire par un faux sens de responsabilité? Eh bien, regardez-moi ça. La raison pour laquelle Satan veut que vous cachiez tout, c'est que tant que c'est caché en vous, vous ne pourrez jamais vraiment vous en libérer. Pas tout à fait. Et donc, les choses que vous cachez en vous, que ce soit quelque chose que vous avez fait et dont vous êtes honteux, ou quelque chose qui vous a été fait et dont vous êtes honteux, si vous n'en parlez jamais, 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 vous ne vous rendez pas service. Commencez par en parler franchement et honnêtement à Dieu. Parlez-vous tout seul, franchement et honnêtement. Vous devez extérioriser les choses pour les surmonter. Il y a des choses dont je me souviens comme je grandissais. Quand j'avais 12 ans, mon père est passé de l'agression sexuelle au viol. Il ne m'a pas forcé physiquement, mais il m'a certainement forcé par la peur et la manipulation et le contrôle et les menaces et les mensonges. Et préparer cette entrevue était intéressant pour moi car je n'avais jamais prononcé le mot viol pendant toutes les années où j'en ai parlé. Et quand je l'ai prononcé pour la première fois, en préparant cette entrevue, ça a eu l'air si violent, même pour moi car je disais toujours « abus sexuel ». Mais je crois que Dieu me l'a mis sur le cœur car je pense que nous sommes devenus vraiment insensibles au mot « abus sexuel ». Et ce qu'il m'a littéralement fait, c'est qu'il m'a violé. Il faisait ça chaque semaine, au moins une fois par semaine, jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai fait un calcul et me suis rendu compte que mon père, en qui j'étais censée avoir confiance et qui était censé me protéger, m'a violé au moins 200 fois avant que j'aie eu 18 ans. Maintenant, comment est-ce que ceci peut m'arriver? Et je me tiens là devant vous aujourd'hui, dans la condition dans laquelle je suis, si Dieu n'est pas bien vivant sur la planète Terre. Comment serait-ce possible sans Dieu? Le plus grand œil au beurre noir que vous pouvez flanquer au diable, c'est de donner votre peine à Dieu pour qu'il la change en gain, de lui donner votre gâchis pour qu'il en fasse votre message. Car vous voyez, quand je vous dis que je sais ce que c'est que la souffrance, vous me croyez. Et quand je vous donne mon témoignage et que je vous dis que je suis guérie et rétablie et saine et équilibrée et que j'ai un mariage formidable depuis 43 ans et 4 enfants qui servent Dieu et 10 petits-enfants et que j'aime ma vie et que je pense que je suis de valeur pour le royaume de Dieu, cela vous donne l'espérance. Cela vous donne l'espérance que Dieu le fera pour vous aussi. Amen. Et c'est pourquoi je fais ça. Parce que je veux que tout le monde sache que Dieu est bon et que leur lutte en vaut la peine. Votre parcours en vaut la peine. N'abandonnez pas. Tenez bon.
Joyce, parlons un peu de la confiance. Parce que C'est difficile d'accorder sa confiance quand il s'avère maintes et maintes fois que les gens ne sont pas dignes de confiance.
Oui.
Donc, comment en es-tu arrivé au stade où tu as compris que Dieu est fidèle, que Dieu est digne de confiance? Et à un certain moment, tu as dû commencer à accorder ta confiance et voir venir. Ça a dû être vraiment difficile.
Eh bien, une des choses importantes qui m'ont vraiment aidé, c'est le verset qui dit que l'amour croit tout. Et moi, j'ai passé beaucoup d'années dans la méfiance parce que mon père n'était pas le seul à abuser de moi, non, mais il y avait deux ou trois autres hommes qui ont essayé de faire la même chose. Un patron pour qui je travaillais, un oncle, un grand-père. Et donc, il y avait plutôt un esprit d'inceste dans la famille de mon père dans le temps. Et à vrai dire, je pense que certains d'entre eux ont grandi avec ça et
c'était presque la norme.
Eh bien oui, je pense qu'ils savaient que c'était mauvais, mais c'était quelque chose qui leur était arrivé à eux aussi dans leur enfance. Et tu sais, il y a beaucoup de gens méchants dans le monde. Et donc, ça peut vous rendre complètement insensible et méfiant. Et je me souviens que dans mon mariage avec Dave me disait parfois, « Pourquoi agis-tu comme si j'étais ton ennemi ?» Car j'ai toujours eu l'impression que tout le monde voulait ma peau. Et il m'était très difficile de le laisser prendre des décisions pour toute la famille parce que je ne croyais vraiment pas que quelqu'un puisse prendre une décision qui soit bonne pour quelqu'un d'autre que lui, car c'est tout ce que j'avais vu. Chaque décision que mon père prenait, c'était pour son plaisir personnel, ce qu'il voulait, ce qui lui semblait bon. Il se fichait pas mal des autres. Et donc, comme j'essayais de résoudre ça avec Dieu, le Seigneur me l'a mis sur le cœur un jour et j'ai dit « Comment pourrais-je faire confiance à Dave après ce que les hommes m'ont fait ?» Bien que Dave n'a rien fait, comment pourrais-je faire confiance aux hommes ? Et je me souviens que Dieu a parlé à mon cœur « Je ne te demande pas de faire confiance à Dave ou à n'importe quel autre homme, je te demande de me les confier. »
Tu as beaucoup parlé des secrets, tu as parlé du danger des secrets. Mais après toutes ces années, est-ce que tu trouves vraiment que Dieu continue toujours cette guérison dans ta vie en révélant les choses pour ne plus avoir à vivre dans les secrets continuellement et en te donnant à chaque instant une nouvelle liberté?
Le problème avec les secrets, c'est qu'ils vous emprisonnent. Et il y a une telle libération quand vous pouvez les partager. Et tu sais, je dis aux gens, si c'est formidable si vous pouvez trouver quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous soit cher, un leader spirituel, un bon ami, un membre de la famille avec qui vous pouvez être franc et honnête. Mais si vous n'avez absolument rien de tout ça, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, comme celle sur laquelle je suis assise, et vous pouvez parler à voix haute, à votre Père Céleste, et vous pouvez lui dire, « Je n'ai personne en ce moment à qui je sens que je peux parler, mais je vais te parler franchement et honnêtement. » Comme j'ai déjà dit, vous ne lui dites rien qu'il ne sait pas déjà. Mais nous avons besoin d'extérioriser les choses. Nous avons parfois besoin d'exprimer leur laideur. Je me souviens que je me suis regardée un jour dans le miroir et je me suis dit, « Tu sais, Joyce, tu n'as jamais eu de parents qui ont su t'aimer comme il faut. Ils avaient des problèmes et ils ne savaient pas aimer comme il faut. Et tu sais quoi, Joyce? Tu ne les auras jamais. » Donc, tu dois comprendre et aller de l'avant. Toutes les victimes d'abus sexuels peuvent se remettre complètement, se rétablir complètement. Maintenant, il y a des choses que je n'aurais jamais et que j'aurais sûrement aimé avoir. Je ne saurais jamais ce que c'est que d'avoir un bon papa. Jamais ce que c'est que de pouvoir m'asseoir sur les genoux de mon papa, de mettre mes bras autour de son cou et de l'étreindre sans craindre que ça ne se transforme en quelque chose d'autre. Je ne pourrai jamais, quand j'aurai de la peine, demander à mon papa de prendre un café avec moi pour lui raconter ce que j'endure et pour qu'il s'occupe de moi. Je n'aurai jamais ça. Mais j'ai mieux que ça. Parce que j'ai une vie avec Dieu et une relation avec Dieu. C'est absolument la chose la plus merveilleuse et la plus précieuse au monde pour moi. Et la Bible dit dans le psaume 27:10, « Même si votre mère et votre père vous abandonnent, je vous recueillerai et je vous adopterai et je ferai de vous mes enfants. » Amen. Ils ne me brutalisaient pas tant que ça. Mais il me menaçait toujours. Je me souviens qu'il mettait son poing dans ma figure chaque fois que je faisais quelque chose qui ne lui plaisait pas. Et la menace était là. Et encore à ce jour, je ne supporte pas que quelqu'un approche soudainement ses mains de mon visage. Et je dirais, ne fais pas ça. Il était autoritaire. Tout devait être comme il voulait. En plus des sévices sexuels qu'il exerçait sur moi, il était méchant. Il dominait tout. Nous devions aimer ce qu'il aimait, nous coucher quand il se couchait, nous lever quand il se levait, regarder ce qu'il voulait regarder à la télé. Nous devions même manger ce qu'il aimait manger et nous devions rire de ses cochonneries. Il était furieux la plupart du temps et nous craignions tous que ce ne soit à cause de nous. C'est une chose que je dois affronter aujourd'hui encore. Si je suis avec quelqu'un et c'est quelqu'un de proche, et s'il se met en colère, je me demande automatiquement qu'est-ce que j'ai fait. Puis je dois me parler toute seule et me dire, attends, attends, attends. Vous voyez ce qu'il y a de merveilleux chez Dieu? C'est qu'on a le choix. On ne réagit pas seulement. On peut se surprendre à réagir contre les anciennes informations et on peut maintenant agir d'après la parole de Dieu. J'avais honte à cause de ce qui m'arrivait et je suis devenue solitaire. Dans mon adolescence, il m'emmenait avec lui au bar les samedis soirs. Et il s'enivrait et me forçait à faire des rapports sexuels avec lui sur le siège arrière de la voiture. Un jour, un policier l'a surpris et j'ai pensé, enfin quelqu'un va m'aider. J'étais si contente. Mais le policier a conversé avec mon père hors de la voiture et mon père m'a finalement dit, « Je lui ai dit que tu étais ma cousine. » Et il a promis de nous laisser aller si tu lui permets d'avoir des rapports sexuels avec toi. Il faut donc que tu fasses ça, sinon nous nous retrouverons tous les deux en prison. Mais le policier a reçu un appel sur son talkie-walkie et je m'en suis tirée. J'ai essayé deux ou trois fois d'en parler à des parents dans la famille. Mais ils ont tous dit qu'ils ne me croyaient pas parce qu'ils ne voulaient pas s'en mêler. Un jour, ma mère a été admise à l'hôpital et j'ai écrit une lettre à mon père. Lui expliquant que je me sentais sale à cause de ça et combien de bains je prenais pour me débarrasser de cette sensation, j'ai pris mon courage à deux mains pour lui écrire cette lettre et lui demander d'arrêter. Il travaillait la nuit et il rentrait à la maison vers minuit. Et mince alors, il est entré dans ma chambre et il était si furieux et j'ai fini par m'excuser de lui par peur et de lui dire que je n'aurais jamais dû écrire la lettre. J'ai finalement essayé de recourir à plusieurs personnes et il était évident que personne n'allait m'aider. La police et les parents n'allaient pas m'aider. Je n'ai pas pu le dissuader, je me suis finalement adaptée et j'ai pensé je m'en tirerai. Une des choses dont je me souviens, probablement une des choses les plus dégoûtantes pour moi, c'était quand je suis devenue assez grande pour apprendre à conduire. Mon père me prenait tous les dimanches après-midi pour une leçon de conduite. Et d'entre tous les endroits ridicules où mon père m'emmenait pour faire ce qu'il allait me faire, il m'emmenait à un cimetière. Et c'est là qu'il me violait dans la voiture. Et si quelqu'un venait, nous sortions de la voiture pour faire semblant de regarder les tombes. Écœurant, 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 écœurant. Il travaillait la nuit comme mécanicien de camion et j'étais à l'école pendant la journée. Et je n'avais affaire à lui que les week-ends. Mais croyez-moi, je détestais l'été. J'avais hâte de revenir à l'école. Il venait me réveiller la plupart des matins et me touchait sous les couvertures. En fait, mon père n'avait pas un problème qu'avec moi. Il avait des problèmes avec beaucoup de femmes. Et il y avait des tas de femmes avec qui il avait des relations sexuelles. Et c'était vraiment triste. Je suis heureuse de dire que Dieu m'a donné la grâce de pardonner complètement, à 100% à mon père. Ça m'a pris du temps, mais j'ai pu le faire. Et je lui avais pardonné, mais non pas complètement et totalement. Et je me suis rendu compte de cela quand Dieu m'a demandé il y a quelques années d'amener ma mère et mon père du sud-est de Missouri à Saint-Louis et de les rapprocher de notre maison et de m'occuper d'eux jusqu'à la fin de leur jour. Et j'ai pensé sûrement, tu veux rire? Non, mais au début, j'ai réprimé l'idée. J'ai pensé, pas moyen que ce soit de Dieu, car un Dieu d'amour ne demanderait pas de faire ça. Car voyez, ils étaient quelque part où je n'avais affaire à eux que deux ou trois fois l'an. Je les voyais pendant les vacances, je leur donnais de l'argent, et j'essayais de ne pas y penser. Dieu m'a dit, ils sont malades et vieux. Je lui ai dit, qu'ont-ils fait pour moi? Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Tu respires. Ils se sont accouplés. Et ils m'ont donné la vie. Et... Oh, c'était si difficile pour moi, mon Dieu. J'avais du mal à faire ça. Mais à ce moment-là, j'avais assez d'expérience pour savoir que Dieu s'occupe de moi. Et je savais aussi que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose qui ne concourt pas à notre bien. N'oubliez pas ça. Dieu ne vous demande jamais de faire quelque chose qui ne concourt pas à votre bien.
Quand nous avons entendu ton témoignage, nous avons facilement compris que le sentiment d'isolement et le sentiment d'abandon sont très importants. Donc,
oui.
Comment as-tu pu les surmonter, empêcher ce sentiment d'abandon et ce sentiment d'isolement de continuer dans ta vie et dans tes différentes relations?
Eh bien, une chose est sûre, tu sais, tous ceux qui sont maltraités, que ce soit une femme battue, un époux qui a été infidèle, des parents qui ne vous ont pas aimé comme il faut ou qui vous ont donné l'impression de ne pas vouloir de vous. Il y a même des personnes qui sont adoptées et qui ont cette impression. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas pourquoi leurs parents biologiques ne les ont pas gardés avec eux. Et tu sais, ils peuvent endurer beaucoup de trucs comme ça. Et une des plus belles choses dans la relation avec Dieu, c'est qu'il est le Dieu de toute consolation. Et donc, c'est vraiment une chose surnaturelle qui dépasse l'entendement. Quand vous commencez une relation avec Dieu, il commence à vous consoler dans votre vie. L'important, c'est que votre pensée soit renouvelée. Non, mais vraiment, quel que soit ce que Dieu veut faire pour vous, vous devez apprendre à penser différemment. Et je veux m'assurer que tout le monde apprenne ça. Quel que soit ce que Dieu veut faire pour vous, vous devez apprendre à penser différemment. Romains 12. 1 et 2 nous dit que Dieu a un bon plan pour notre vie, mais nous ne vivrons jamais ce bon plan à moins que notre pensée et notre attitude soient complètement renouvelées par la parole de Dieu. Et donc, tous ces sentiments changeront comme vous commencez à étudier la parole. Et non seulement étudier la parole, mais encore passer un temps avec Dieu. Et vous savez, les gens disent toujours, que dois-je faire en passant un temps avec Dieu? Vous savez, il ne s'agit pas tant d'avoir une formule de ce que vous devez faire que de donner un temps à Dieu. Si vous ne faites rien d'autre que de vous asseoir et dire, Dieu, j'ai besoin de toi, c'est toujours très précieux, car je pense que nous honorons Dieu avec ce temps régulier avec lui. Et puis, des choses différentes arrivent à des moments différents. Vous priez, vous étudiez, vous chantez, vous pleurez, vous réfléchissez, mais il est important de passer un temps avec Dieu. Et comme vous étudiez la parole et que vous passez un temps avec Dieu petit à petit, de gloire en gloire, petit à petit, tous ces mauvais sentiments s'en vont. Or, si l'on abuse de vous en ce moment, vous devez prendre une décision. Pardonner à quelqu'un ne veut pas nécessairement dire que vous devez rester dans une situation où l'on abuse de vous et où l'on vous brutalise. Dans ce processus de guérison, qui est absolument un processus de surmonter tous ces mauvais sentiments, Dieu vous amènera tôt ou tard au point d'avoir besoin de pardonner complètement à tous ceux qui vous ont fait du mal. Et je sais que ça semble impossible au début, ça semble ridicule, ça semble injuste, mais vraiment, vous ne pouvez rien faire d'autre que de prendre la décision de faire ce que Dieu vous demande de faire. Et vous commencez d'abord par la décision. Et une des choses que vous devez faire, c'est de prier pour ceux qui vous ont fait du mal. N'essayez pas de vous en venger, mais confiez-les simplement à Dieu. Et vous ne les confiez pas à Dieu dans le sens que Dieu vous jugera, mais priez pour leur salut et faites ce qu'a fait Jésus quand il a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et donc, c'est très important pour vous que vous pardonniez. Bien que ce soit important pour ceux qui vous ont fait du mal, c'est plus important pour vous, car ce non-pardon est comme un poison et une amertume dans votre âme, et votre vie sera toujours amère jusqu'à ce que vous vous débarrassiez de ce poison. Quand nous avons fait venir mon père et ma mère à Saint-Louis pour y vivre, nous leur avons acheté une maison, nous avons dépensé notre argent. Nous avons dû leur acheter une voiture, nous avons dû leur envoyer quelqu'un toutes les semaines pour leur assurer leurs provisions. Chaque fois que quelque chose devait être réparé, nous devions le faire, nous achetions leurs vêtements. 3 ans se sont écoulés et il semblait que mon père était loin d'être changé. Et à ce moment-là, il en était au stade où il essayait d'aller à l'église les jours de fête avec nous. Mais il était toujours aussi méchant qu'un serpent. Et le jour d'action de grâce, ma mère m'a appelé et m'a dit, ton père voudrait que vous veniez, il veut vous parler. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui, il pleure depuis 3 semaines. Elle m'a dit, je pense que je sais, mais vous feriez mieux de venir. Nous sommes donc allés, Dave et moi, et il m'a dit en pleurant, j'ai besoin de te dire à quel point je suis désolée pour ce que je t'ai fait. Et il m'a dit, ça fait 3 ans que je voulais te le dire, mais je n'avais pas le courage de le faire. Et il a regardé Dave et lui a dit, à ta place, la plupart des hommes m'auraient tué. Mais tu n'as jamais été que gentil avec moi. Et mon père, à propos, a reçu le Christ ce jour-là et nous l'avons baptisé 10 jours plus tard. Amen. Et il est mort il y a environ 3 ans. Non, mais cet homme avait changé. Il était devenu un gentil vieil homme. Je pouvais l'embrasser sur la joue sans avoir peur. Et donc, c'était un grand œil au beurre noir pour l'enfer. Où était Dieu dans tout ça? Parlons-en pour un instant. J'ai été régénérée à l'âge de 9 ans. J'allais à l'église en cachette avec des parents quand nous les visitions au sud-est de Missouri et mon père sortait pour s'enivrer de toute façon. Et il y avait une réunion de renouveau de foi du samedi soir. Et comment j'ai su que j'avais besoin d'être sauvée, croyez-moi, ça me dépasse. Mes parents m'envoyaient parfois à une école du dimanche luthérienne avec des voisins quand j'étais petite. Et j'ai entendu juste assez pour avoir conscience de Dieu. Et je pense que c'est vraiment drôle. Mais la nuit où j'ai projeté d'aller à l'église, j'ai projeté d'être sauvée. C'était mon but. J'ai emmené 2 cousines avec moi et je leur ai dit, nous irons à l'église et nous allons être sauvés. Je crois que j'avais même à cette époque une petite évangélisatrice en moi. Et le pasteur n'a pas lancé l'appel ce soir-là et j'étais si déçue. Mais je pense que j'avais du cran même à cette époque. J'ai pris mes 2 cousines par la main et je me suis approchée en avant et j'ai regardé le pasteur en pleurant et je lui ai dit, « Peux-tu me sauver ?» Et je me souviens qu'il a prié la prière du salut. Il s'en voulait de ne pas avoir lancé l'appel. Il a prié la prière du salut avec nous. Et non, mais je sais absolument qu'à ce moment-là, mes péchés ont été pardonnés. J'ai senti comme une rivière qui me traversait. Non pas que vous deviez sentir quelque chose, mais j'ai senti. Cependant, je n'avais aucune éducation, personne à qui parler. Je n'oublierai jamais ça. Le lendemain, j'ai triché dans un jeu de cache-cache. Je posais ma tête sur la maison blanche de ma grand-mère. Et quand mes cousines sont allées se cacher, j'ai jeté un coup d'œil furtif. Et le diable est comme ça. À l'instant même, il m'a dit, « Tu as perdu ton salut. » Et je l'ai cru jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai prié pour que mon père meure, mais je n'ai pas été exaucée. J'ai prié pour que ma mère le quitte et qu'il me laisse tranquille, mais je n'ai pas été exaucée. Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas aidé? Je priais, je demandais, j'étais cette petite fille innocente dont on abusait. Eh bien, vous savez quoi? Je n'ai pas de réponse à tout ça, mais je peux vous dire que par la foi, je comprends maintenant. C'est pourquoi ce verset que j'ai partagé hier soir, c'est par la foi que nous comprenons comment le monde a été formé. Je ne peux pas vous l'expliquer dans ma pensée, mais je sais que... Je sais bien que Dieu ne m'en a pas libéré, mais il m'a donné la force de l'endurer. Et écoutez, je me souviens que quand j'étais adolescente allongée sur mon lit la nuit, et c'était mon moment préféré car mon père était toujours au travail, et de ma petite façon d'enfant, je priais ardemment. Et je pensais qu'un jour, je ferais sûrement quelque chose de grand. Qu'un jour, je ferais quelque chose de très grand. Je crois que Dieu met une graine de grandeur chez tout le monde. Et je crois également que vous avez plus de capacités que vous ne pouvez imaginer. Mais Satan essaye toujours de nous dégrader. Il essaye de nous abaisser et de nous déprécier par les gens qui nous maltraitent. Mais je veux que vous sachiez aujourd'hui que bien que l'on ait abusé de moi et abandonné, et il semblait que personne n'allait m'aider et que ça ne finirait jamais, juste au milieu de tout ça, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Et je ne peux pas vous expliquer ça, ne me le demandez donc même pas. Mais je disais pour des années, bien sûr, j'aurais voulu que l'on n'abuse jamais de moi. Mais Dieu m'a aidé à me rétablir. Et il y a environ 3 ans, j'ai dit ça, bien sûr, j'aurais voulu que l'on n'abuse jamais de moi. Et Dieu m'a arrêté. Il a dit, arrête de dire ça. À ce moment-là, j'ai réfléchi et je me suis dit, et je sais que ça semble fou, mais je suis heureuse que ceci soit arrivé, parce que je suis maintenant meilleure que je n'aurais jamais été. Je ne comprends rien à tout ça, mais je sais que je sais que je sais que je sais que Dieu m'a racheté et qu'il a pris ce que Satan a médité pour me faire du mal et il l'a changé en bien. Et je suis meilleure que je n'aurais jamais été si ceci ne m'était pas arrivé. Et il en va de même pour vous aussi. Je suis plus forte. Je connais mieux Dieu. Je comprends la douleur des gens. Et je crois que ça m'a permis de vous aider dans votre douleur et votre besoin et de vous dire avec passion et amour, Dieu est vivant. Il vous aime. Il a un bon plan pour votre vie et ne doutez jamais de ça. Ne doutez jamais de ça. Pouvez-vous vous rétablir? Vous regardez une personne qui s'est rétablie. Amen. Vous regardez maintenant la preuve que vous pouvez vraiment vous rétablir. Il n'y a pas un abîme si profond qu'il ne puisse étendre le bras pour vous en sortir. Il dressera vos pieds sur le roc. Il vous donnera une vie merveilleuse. Il vous donnera un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il fera de vous des arbres de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et il vous donnera une bénédiction double au lieu de vos problèmes précédents. Allez, louez Dieu!
Alléluia.
Tu sais, quand je t'ai entendu partager ton histoire et j'ai entendu certains de ces détails que tu partages, mon cœur s'est brisé pour la petite fille que tu étais. Et je vois la femme de Dieu que tu es aujourd'hui et la guérison que Dieu a faite. Mais je n'arrête pas de penser encore à tous ces gens qui disent « Mais ça ne marchera pas pour moi ». Je suis toujours dans cette situation. Je ne vais pas recevoir la guérison que Dieu a donnée à Joyce. Dieu aime Joyce d'une façon différente. Donc, que fais-tu pour faire comprendre aux gens que Dieu ne favorise personne différemment qu'une autre, qu'il a cet amour pour nous tous?
Eh bien, si vous regardez cet épisode et si vous pensez comme Ginger vient de dire, eh bien, peut-être pour Joyce, mais pas pour moi. Non, mais la foi est un pas. Non, mais la foi est un saut. C'est comme... L'essentiel, à mon avis, c'est que si ce que vous faites maintenant ne marche pas, ce qui n'est pas le cas, sinon vous n'auriez pas regardé ceci, pourquoi ne pas faire ce saut de foi et dire, tu sais quoi? Je crois vraiment que Dieu peut faire ça pour moi. Et je crois que Dieu fera ça pour moi. Et je vais espérer. Je vais croire. Je vais m'attendre à ce que quelque chose de merveilleux se produise dans ma vie. Et il y a quelque chose que vous pouvez faire. Même si vous ne pouvez pas dire en ce moment que vous croyez ça à 100%, vous ne devez pas feindre avec Dieu. Et vous savez, prenez votre tout petit peu de foi à Dieu et dites-lui, Dieu, je crois que tu existes. Dieu, je crois que tu aimes vraiment les gens. Dieu, j'ai du mal à comprendre l'amour. Aide mon incrédulité. Mais la chose que vous pouvez faire et qui vous aidera énormément, c'est que vous pouvez commencer à confesser à haute voix ce que vous aimeriez voir arriver dans votre vie, tant que c'est en accord avec la parole de Dieu. Et vous pouvez prendre des versets, et vous pouvez, par exemple, confesser le psaume 27:10. Mon père et ma mère m'ont abandonné, mais Dieu me recueillera et m'adoptera comme son propre enfant. Et une des choses que j'ai apprises récemment, et même scientifiquement, nous croyons que nous nous entendons dire que ce que quelqu'un d'autre nous dit. Et donc, je peux vous dire, Dieu vous aime vraiment. Et vous pouvez penser, eh bien, je ne le sens pas. Mais si vous commencerez à dire à haute voix, 50 fois par jour, Dieu m'aime vraiment, Dieu m'aime vraiment, Dieu m'aime vraiment, croyez-moi, vous commencerez dans quelques jours à penser, peut-être qu'il m'aime vraiment. Et vous savez, c'est un principe que j'ai appliqué dans ma vie, et ça a beaucoup à faire avec la guérison que Dieu a amenée dans ma vie, car la Bible dit clairement, vous devez appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et vous savez, pour ceux qui prennent beaucoup de mon enseignement, c'est vraiment un thème principal de mon enseignement, comme quoi vous devez commencer à le prononcer, et vous devez commencer à le confesser, et à être d'accord avec Dieu, car j'ai été en accord avec l'ennemi pour tant d'années, bien que je fusse chrétienne et que j'aille à l'église. Je disais des choses comme « je n'arriverai jamais à rien, ma vie sera toujours un gâchis, si seulement on n'avait pas abusé de moi ». Vous savez, l'apitoiement sur soi. Et vous devez en arriver à dire « vous savez quoi, je ne peux rien faire au sujet de ce qui m'est arrivé ». Et je dis tout le temps « je n'ai pas eu un très bon début dans la vie, mais pour sûr que j'aurai une bonne fin ». Et chacun de vous aussi peut l'avoir. Quel que soit votre début, aujourd'hui, maintenant, et un jour de transition et de changement pour vous, où vous pouvez dire « je vais faire ce saut de foi et je vais croire que si Dieu le fera pour quelqu'un d'autre, il le fera pour moi. »
Peux-tu donc prier avec les gens pour qu'ils commencent à faire ce pas, non pas par leur propre puissance, mais par la puissance de Dieu?
Je prie que vous compreniez que Dieu vous aime vraiment et que quel que soit ce qui vous est arrivé dans votre vie, quelle que soit la profondeur de votre abîme, Dieu étendra la main pour vous en sortir et il vous guérira. Dieu peut renouveler votre pensée par sa parole. Il peut guérir vos émotions. Il peut vous aider financièrement et vous guérir physiquement. Il peut vous donner les amis qu'il faut, la vie sociale qu'il faut. Dieu peut vous aider et il veut vous aider. Ça ne va pas être rapide, ça ne va pas être facile, mais c'est plus facile que de rester dans l'esclavage. Certaines choses viendront rapidement, d'autres viendront plus lentement. Mais la chose sur laquelle vous devez prendre une décision, c'est « je vais commencer ce voyage par la foi et je ne vais jamais abandonner ». Prenez avant de commencer la décision de ne pas renoncer parce que Dieu ne renoncera pas à vous. Et si vous êtes vraiment sincère et que vous voulez vraiment ce rétablissement et cette guérison dans votre vie, accordez-vous avec moi dans la prière aujourd'hui. Et je crois que ça va faire démarrer un voyage neuf dans votre vie. Et je peux ajouter… certains d'entre ceux qui nous regardent n'ont jamais reçu le Christ comme leur sauveur. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais invité le Christ à leur vie, j'aimerais d'abord prier une courte mais puissante prière de salut, ce qui veut essentiellement dire « je vais prier avec instance ». Vous allez prier après moi et vous allez inviter Jésus à venir dans votre vie. Puis nous allons prier cette prière de guérison et de rétablissement. Donc, prions ensemble. Je vais prononcer de courtes phrases et vous allez les répéter. Père Dieu, je t'aime. Jésus, je crois en toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Je sais que je suis pécheur. Je regrette tous mes péchés. Et je te demande de me les pardonner. Tu as payé mes péchés. Jésus, je te reçois maintenant dans ma vie. Et je me consacre à toi maintenant, je me rends, je te livre ma vie, prends-moi juste comme je suis, travaille avec moi et fais de moi ce que tu veux que je sois. Je crois que mes péchés ont été pardonnés, je crois que j'ai été sauvé, je suis sur le chemin du ciel. Et je jouirai du voyage. Maintenant, Dieu, je te livre ma vie. Je te livre ma vie pour que tu me guérisses. Je te demande la guérison et le rétablissement complet. Et la rédemption de tout ce qui a été perdu dans ma vie. Je te demande d'amener la justice dans ma vie pour toutes les choses qui m'ont fait du mal. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je prie Dieu que tu le lui compenses. Et je prie que tu compenses les mauvaises choses que j'ai faites dans ma vie. Montre-moi s'il y a quelque chose que je peux faire pour réparer. mais je ne peux le faire que par ta puissance. Père Dieu, je veux cette guérison, mais je sais que je ne peux pas y arriver seul. Donc je te demande aujourd'hui de me guérir complètement. Et je travaillerai avec toi, sans abandonner, pour que le travail soit accompli. Je te rends grâce pour tout ce que tu as fait dans ma vie et pour tout ce que tu fais maintenant. Et je te rends grâce pour tout ce que tu feras dans l'avenir. Au nom de Jésus.